Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
À partir de l'accent et de la musique, de ce qu'il dit, plutôt que de la parole. Alors, donc, j'ai rempli, on peut dire, mon ventre. Et alors, de temps en temps, j'ai dit, tiens, si je lui sortais ça maintenant, une petite interprétation.
À la folie, pas du tout sur Radio Barthas.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission à la folie pas du tout, dédiée aux enjeux, aux questions, aux témoignages, aux réflexions autour de la santé mentale. Elle sera diffusée une semaine sur deux, le samedi à 9h et le jeudi à 11h, et sera disponible en podcast sur notre site radiobartas.net. À la folie, pas du tout, c'est un créneau ouvert où seront diffusées des émissions produites par Radio Barthas, comme celles que nous vous proposons aujourd'hui, mais ce sera aussi parfois des productions extérieures qui y trouveront leur place. Nous diffuserons, par exemple, dès la semaine prochaine, la série radiophonique Chez Georges, produite par la radio de Clermont-Ferrand L'Onde Porteuse, en partenariat avec le centre hospitalier Georges Daumaison. 8 épisodes sous forme d'émissions animées et réalisées par des soignants et des soignés. On vous en dira plus dès la semaine prochaine. Et si vous avez des idées, des envies, que vous souhaitez animer ou nous proposer un sujet d'émission, un reportage, un témoignage dans ce nouveau créneau, n'hésitez pas à nous écrire à contact@radiobartas.net. Vous le savez, les portes de cette radio sont grandes ouvertes.
À la folie, pas du tout, sur Radio Barthas.
Aujourd'hui, le thème de cette toute première émission est la représentation de la santé mentale au cinéma. Et pour en parler, je suis en compagnie de Denis Clabeau et de Camille Zabalza. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Denis, vous êtes montreur de films, vous avez 35 ans derrière vous d'engagement dans l'éducation à l'image et vous êtes aussi le directeur artistique du festival Cinéma d'ici, l'Occitanie sur grand écran. Et Camille, vous êtes chargée des relations avec les publics pour la Nouvelle Dimension et pour le festival Vue du Québec. Alors si on a choisi ce sujet aujourd'hui, santé mentale et cinéma, c'est en résonance avec le festival que vous organisez avec la Nouvelle Dimension, Camille, le festival Cinéma pour tous, qui a lieu à Florac du 26 au 29 novembre et dont le thème cette année est « Santé mentale et représentation à l'écran ». Denis Clabeau, vous y êtes invité, vous animez une séance scolaire, des débats ainsi qu'une conférence sur les liens entre cinéma et santé mentale. Pour commencer peut-être avec vous Camille, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème pour cette édition de votre festival ?
C'est un thème qui a été donné par la région en fait. Voilà, cette année, c'était sur la santé mentale. Et donc, nous, on a décidé voilà, de montrer des films autour de ça. On a par exemple un film qui s'appelle Billy de Laurence Côté-Collins. On a le livre des solutions. On a voilà, pas mal de films assez intéressants. Et moi, je m'occupe avec Guillaume du coup de pouvoir coordonner un petit peu tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une action qui se fait sur la région. Et pas que à Florac, on a eu déjà une projection à Mende, une à Marvejol hier soir, et ensuite là, voilà, c'est Florac jusqu'à demain soir.
Et la santé mentale, elle est aussi mise à l'honneur par la région car elle est la grande cause nationale. Elle était la grande cause nationale en 2025 et on a appris très récemment, elle sera prolongée en 2026. Alors, grande cause nationale, c'est un label officiel attribué par le Premier ministre à un collectif d'associations pour leur permettre d'organiser des campagnes, de diffuser des messages sur leur domaine d'action. Le gouvernement a choisi de prolonger la grande cause nationale dédiée à la santé mentale car, d'après le constat qui a été fait, la France a commencé à changer son regard sur la santé mentale et le gouvernement veut donc profiter de cet élan pour l'amplifier. Et c'est vrai que je pense que tout le monde le ressent plus ou moins, la parole elle se libère sur ces enjeux. Il y a de plus en plus de témoignages, des personnalités publiques qui s'expriment sur le sujet, qui partagent leurs expériences sur leur propre santé mentale. Alors, on va essayer de voir avec vous, Denis Clabeau, si ces changements de regard, de perception dans nos sociétés, ils se traduisent aussi dans le cinéma. Je le disais, vous allez animer, donc, dans le cadre du Festival Cinéma pour tous de la Nouvelle Dimension, une conférence où vous proposez de décrypter le regard que porte, qu'a porté le cinéma sur la santé mentale et comment, en miroir, il a façonné notre perception des troubles psychiques. Est-ce que vous pourriez essayer de nous retracer un peu l'évolution dans le temps de la façon dont le cinéma a abordé la santé mentale ?
Alors, ça va faire l'objet de la conférence de demain, en fait. Hein. Pendant une heure et demie, on va essayer un petit peu de voir comment, en fait, effectivement, on en vient aujourd'hui à avoir des films qui présentent ces particularismes, ces souffrances. Parce qu'on parle beaucoup de troubles de la santé mentale, mais le mot trouble me semble assez vague, quelquefois, imprécis dans tous les cas, parce que c'est avant tout de la souffrance. Et comment, en fait, cette souffrance, aujourd'hui, lorsqu'elle apparaît dans les films, elle est faite de manière beaucoup plus affinée, beaucoup plus... voilà, il y a quelque chose qui a changé dans le regard. Tout simplement, très certainement, je le disais tout à l'heure aux jeunes qui ont assisté à la projection du film Le Livre des Solutions, tout simplement parce qu'il y a des réalisateurs qui ont la possibilité de faire ce que j'appellerais des autopathobiographies. C'est des personnes qui sont concernées de près par cette problématique, soit parce qu'ils en souffrent eux-mêmes, soit parce que dans leur entourage immédiat, il y a des personnes qui souffrent de ces pathologies et ils ont un regard très affûté. Sur la question, et ils savent le présenter avec une sensibilité qui fuit tout sensationnalisme, je dirais. Voilà. L'évolution, elle est surtout là. Il faut comprendre que, et je le rappellerai demain dans la conférence, que au tout départ, le cinéma, c'était un art forain, d'accord ? Et que à partir de là, quand les gens venaient voir des films, ben, ils venaient comme quand ils venaient à la foire, c'était pour voir des choses qui allaient les impressionner ou les faire rire. Et les premiers opérateurs ont rapidement compris que ben voilà, il y avait des choses qu'on aurait pu voilà, on a inventé le cinéma burlesque pour faire rire. Et puis on a essayé de montrer des choses que les gens ne verraient jamais de leur existence dans les voilà, et donc du coup on a ramené des images d'animaux impressionnants d'Afrique, on a fait des reportages sur le couronnement du tsar, on a fait voilà, des choses auxquelles personne, le public lambda n'aurait jamais non. Mais il y avait une appétence particulière pour les monstres. Et dans ces foires, il y avait des monstres de foire. Et rapidement, on a compris qu'avec le cinéma, on allait pouvoir faire quelque chose d'assez sensationnel. Méliès le premier, hein, avec les trucages, voilà. Et on allait pouvoir faire peur, les fantasmagories. Et on allait pouvoir filmer, donner à voir un spectacle qui sidérait, qui était très à la mode, enfin très à la mode malheureusement, oui, la folie, voilà, la folie, montrer la folie parce que ça pouvait effrayer, ça pouvait captiver le public, ça pouvait, voilà, il y avait une appétence pour ce type de spectacle. Et du coup, ben, les premiers films qui ont abordé cette question-là, ben, étaient des films qui, très accrocheurs, et petit à petit, ben...
Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples ?
Ben, le premier qui me vient à l'esprit et qui est peut-être le plus marquant et sur lequel je démarrerai demain la rencontre, c'est le cabinet du docteur Caligari en 1920, un film expressionniste, où en fait il y a les trois figures qui ont longtemps marqué le cinéma et la représentation de la santé mentale. C'est le savant fou, l'aliéné et puis... l'hystérie chez la femme, quoi. Voilà, c'est les trois axes qu'on a principalement montrés. Il faut juste se rappeler d'une chose, c'est que le cinéma et la psychanalyse sont quasiment nés en même temps, quoi. Mmh, oui. Et donc, du coup, ils ont évolué aussi en même temps, et les moyens de les soigner aussi, et tout ça, a fait route ensemble.
Et donc, ça, c'est ce que le cinéma décide de montrer, et... À la fois, en miroir, il renforce aussi un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur la santé mentale. Et donc, vous le disiez, l'idée d'aller vers des choses spectaculaires, on l'a vu, il y a eu beaucoup de films qui ont dépeint des personnages de schizophrènes ou avec des troubles de la bipolarité vraiment très impressionnants, et ça a pu contribuer à nourrir un peu des préjugés et des clichés. On peut penser par exemple à la figure du Joker, même dans un film assez récent, ou à un film comme Fight Club, où voilà, c'est des choses qui sont impressionnantes et qui ensuite vont donner à croire au grand public que c'est comme ça, la maladie mentale, elle est comme ça.
Voilà, c'est ça. En fait, ces portraits qui sont faits, ces personnages qu'on nous donne à voir avec leur pathologie, leur spécificité, deviennent des étalons, quoi, en fait, globalement, des modèles. Voilà, quand on pense... J'ai demandé à des cinéphiles autour de moi de me citer un film sur l'autisme, et tout de suite, en tête de liste, il y a eu Rain Man, quoi, en fait. Alors que... voilà, c'est pas forcément le... Enfin...
Oui, parce que là, c'est un autiste génial, très brillant, impressionnant, et l'autisme, c'est pas juste être un génie
C'est 1% de l'autisme. Voilà, c'est tout. Mais le truc, c'est qu'il est servi par un acteur remarquable, que le film est émouvant, il y a toutes les foutades qu'il faut pour que un public, un large public aille le voir. C'est ça, le truc. C'est que, et du coup, il devient le modèle. Quand on pense à autisme, c'est des gens intelligents. Mais non, l'autisme, c'est pas que ça. C'est... Parler du Joker, moi, ce qui m'intéresse énormément dans le personnage du Joker, c'est l'empathie aussi que le cinéaste arrive à faire développer vis-à-vis... Quand il est seul, quand il souffre, quand il est... Il y a de ça aussi. Donc, à la limite, il y a un regard un peu plus différent. Voilà, il y a quelque chose qui est différent et qui est jeté sur le personnage. Chaque film a sa méthode pour nous raconter le vrai et nous faire croire au faux. De toute manière, le cinéma, je ne sais plus si c'est Godard ou Truffaut qui disait « c'est l'art du mentir hein. ». C'est, voilà, on est là pour nous raconter des histoires. Et c'est, voilà. Plus il y a une porosité entre un film avec des accents documentaires et un film de fiction, ben mieux c'est peut-être. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui fait qu'aujourd'hui on a un regard beaucoup plus affiné, beaucoup plus affûté, c'est que souvent ce sont des réalisateurs qui ont été touchés de près par la problématique, et du coup ils y mettent énormément de vrai, quoi. Et ils se trompent moins sur le diagnostic, sur l'accompagnement, sur voilà, il y a quelque chose qui sonne plus vrai.
Et donc, dans le grand nombre de films qui ont traité ces enjeux des troubles psychiques ou de la santé mentale au cinéma, il y a différents points de vue qui ont été adoptés. Donc, il y a eu, par exemple, le point de vue d'un personnage qui, lui, n'a pas de troubles psychiques et qui se retrouve confronté à des personnes internées. On pense, par exemple, à Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Choc Corridor. Il y a la représentation où, dans le film, on essaye un petit peu de rentrer dans la tête du personnage qui souffre de troubles, comme par exemple, on l'a évoqué avec le Joker de Todd Phillips, Black Swan de Darren Aronofsky, La maison du docteur Edwards de Hitchcock, par exemple, ou encore Répulsion de Roman Polanski, où on est avec Catherine Deneuve dans son délire, voilà. Il y a aussi le point de vue du psy, récemment avec par exemple le film Sibyl de Justine Triet, ou alors avec la série En thérapie, où le personnage du psy lui-même, voilà. Et donc, il y aurait encore beaucoup, beaucoup d'autres films à citer, j'avais quand même envie d'en donner quelques titres. Est-ce que de votre point de vue aussi, il y a une évolution dans comment est-ce qu'on se met à la place du personnage, ou comment est-ce qu'on montre le personnage qui est atteint de troubles psychiques?
Alors, je parlais du film qu'on a vu cet après-midi, par exemple, et en fait, c'était assez intéressant parce qu'il y a notamment un des gamins qui a bien touché du doigt la supercherie, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler le supercherie parce que c'est pas très positif comme terme, mais l'artifice utilisé, c'est-à-dire qu'il y a l'acteur qui joue le rôle du réalisateur qui part dans des délires, qui a une boulimie de faire des choses, qui emporte tout son monde autour de lui.
Le film Le Livre des Solutions de Michel Gondry.
Voilà, c'est ça. Et puis, très régulièrement, la scène est jouée devant nous et Pierre Niney, en voix off, nous livre la réflexion du personnage. Dans le film, les protagonistes ne savent pas du tout ce que pense Pierre Niney de la situation. Ils sont peut-être même à 10 000 lieues d'imaginer ce qu'il peut penser d'eux. Mais cet artifice-là est quand même assez intéressant. on joue à la fois sur deux tableaux. Il y a ce qui est montré, ce qui est donné à voir et ce qui est pensé et qui nous est offert par le biais d'une voix off. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on connaît la vie du réalisateur, on sait que il est en train de parler de lui là, hein, et il est en train de nous dire des fois vous me voyez faire des choses, vous me voyez agir, mais vous savez pas ce que je pense.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Sur Radio Bartas.
À la folie, pas du tout, la nouvelle émission dédiée à la santé mentale sur Radio Bartas. Et je suis en compagnie de Denis Clabeau, montreur de films, et de Camille Zabalza, chargée de mission à la Nouvelle Dimension, pour discuter des liens entre cinéma et santé mentale. Denis Clabeau, est-ce qu'en analysant le regard porté par le cinéma, c'est en fait, par effet miroir, notre propre regard sur la santé mentale qu'on perçoit ?
Il y a de tout. Il y a de tout, hein. Franchement, il y a vraiment de tout. Il y a des choses qui sont de l'ordre du fantasme, hein, des habitudes, des sentiers battus. On est vraiment dans le truc qu'on dit tout le temps. On catalogue les gens. Lui, c'est un schizophrène. Lui, c'est un paranoïaque, alors qu'on ne sait pas réellement ce que ça veut dire paranoïaque. On ne sait pas ce que ça veut dire schizophrène, réellement. Et puis que... J'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de bipolarité que de bipolaire, parce que chacun est différent et que voilà, et on peut pas. Enfin, de plus en plus, les gens ont... Et c'est ce qui est un petit peu dommage par ailleurs. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est du cinéma et du coup, ça devient des références et que n'importe qui peut se penser psychanalyste et établir un diagnostic. Alors que non. Alors c'est vrai qu'à l'heure d'Internet et de l'IA, on a l'impression qu'on va pouvoir tout savoir avant tout le monde, mais non, c'est un vrai métier. Le cinéma jette un regard singulier là-dessus, mais c'est pas la référence, même si j'adore le cinéma. Et moi, ce qui m'intéresse dans un film, c'est pas tant ce qu'il me raconte, mais c'est la manière dont il fait. Et la manière dont il fait induit énormément si on n'a pas un regard éveillé, si on n'est pas pas seulement à l'écoute de ce qu'on est en train de nous raconter, mais à la manière dont on le fait, on va finir par croire des choses qui sont fausses et qui sont à peu près istes.
Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les films.
Non, surtout pas. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est tellement mieux quand on se dit, c'est du cinéma.
Mais malgré ça, vous disiez donc qu'il y a une certaine évolution, et notamment du fait que les réalisateurs aujourd'hui sont parfois eux-mêmes concernés. Donc là, en l'occurrence, on pourrait se dire, eh bien, croyons-les et prenons ce film comme une forme de réalité, ou en tout cas de représentation sincère de ce qu'est la maladie mentale.
Oui, oui, mais encore une fois de plus, c'est ce qu'est sa maladie mentale à lui, au travers de son regard à lui. Et avec sa subjectivité à lui, c'est pas une règle applicable à toutes et tous, quoi. C'est juste ça, et c'est juste une expérience de vie. Et c'est vraiment important d'en tenir compte.
Est-ce que pour autant, quand même, vous considérez qu'on assiste à l'émergence d'une représentation plus éthique et humaine de la folie à l'écran ?
Oh, oui. Oui, il y a des choses qu'on ne peut plus s'autoriser à faire ni à dire, quoi. Ou alors, c'est carrément dans le cahier des charges. on est dans un délire. C'est un film qui n'a rien à voir avec la réalité. On le comprend. Non. Il y a une vraie volonté d'être au plus près, au plus exact. Hein. Tout à l'heure, on parle de la bipolarité, mais... Les troubles maniaco-dépressifs, comme on les appelait avant, on n'en parlait pas beaucoup. Quand on les montrait, on montrait surtout la phase hypomaniaque, parce qu'elle était
spectaculaire,
hyper excitante pour un réalisateur à mettre en scène. Quoi.
Mais plus c'est... cinématographique que la phase dépressive où le personnage ne fait rien et reste allongé dans son lit.
Ouais, on a des cuts, on va pouvoir faire quelque chose qui est très clippé, ça va aller vite, ça va bouger, ça va entraîner le public, il va se dire « Ah, oulala, mais quelle folie !» Et puis quand il est en down, ben, il ne bouge plus. Donc on est sur du contemplatif. Aller faire un film qui passe de l'excitation au contemplatif, ça va être un film qu'on va juger déséquilibré, quoi. Et que, ben voilà, on sait que le public, ce n'est pas forcément ce qu'il attendait. Aujourd'hui, il y a un public qui attend aussi autre chose. Il y a un peu plus de réflexion, un peu plus de réalisme. Mais tout en gardant présent à l'esprit que ça reste du cinéma et que c'est un cas parmi tant d'autres.
Il y a aussi plus de bienveillance dans les productions qui sont proposées. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de nuances quand il y a plus de bienveillance ? Je pose la question parce que j'ai en tête la très récente série québécoise qui s'appelle Empathie de Florence Lompré, qui est sortie en avril 2025. Et la réalisatrice, qui est aussi comédienne, elle se met en scène, elle interprète elle-même une psychiatre qui débute un nouvel emploi dans un institut psychiatrique à Montréal. Dans cette série, c'est mon avis personnel, j'ai trouvé que les personnages, ils étaient traités avec énormément de bienveillance, mais qu'on restait quand même dans quelque chose d'un peu cliché. Et que chaque personnage a son problème très bien identifié, qui va être résolu, on sait comment, ça correspond à un trouble précis, et tout va être résolu grâce aux méthodes très bienveillantes instaurées par la nouvelle psychiatre, qui elle-même a une personnalité légèrement en décalage. Et la réalisatrice Florence Lompré, elle a elle-même déclaré qu'elle avait eu envie de, je la cite, « normaliser la maladie mentale ». Et moi, l'action que je me pose, c'est à trop vouloir normaliser ou traiter les choses avec bienveillance. Le risque aussi, c'est de lisser, d'effacer, d'enjoliver un peu et du coup de peut-être perpétuer aussi des clichés, mais dans l'autre sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je comprends tout à fait ce point de vue. Et là, j'utilise un terme cinématographique, hein, point de vue. Ce n'est pas simplement une pensée, mais c'est peut-être aussi d'un endroit où on va se placer pour filmer ce qu'on a envie de donner à voir. Et je ne cesse de le répéter, le cinéma, enfin l'image, elle est fabriquée, hein, elle est... Voilà, après il y a effectivement une intention. Est-ce que ça stigmatise ? Est-ce que ça déstigmatise ? Est-ce que... c'est bien de se poser ces questions. Elles sont vraiment hyper importantes. On est dans un monde d'image, on est capable de nous faire croire tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir raison garder, il faut analyser, il faut réfléchir. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Hein. En thérapie, a été une série intéressante, avec aussi sa part de cliché, aussi, hein, par ailleurs. Empathie aussi. Mais tant qu'on parlera du problème et que l'on n'oubliera pas que on est là peut-être pour changer notre regard sur des choses, parce que notre regard a besoin de changer, à tous les niveaux. Hein. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a fait passer un sketch des Guignols qui date donc d'il y a 25 ans.
Les Guignols de l'info, qui étaient diffusés sur Canal Plus à l'époque.
C'est ça. Et j'ai dit, mais comment on pouvait laisser passer un truc comme ça à l'époque, quoi ?
C'était quoi ?
C'était un truc, une grosse blague raciste, quoi. Et aujourd'hui, mais ça serait juste impossible. Et ça faisait rire tout le monde. Et c'était le commentaire qui était juste en dessous. J'ai dit, à l'époque, on pouvait. Les temps évoluent et heureusement par rapport à cette préoccupation de la santé mentale, parce que se poser la question hier dans un débat auquel j'ai pu assister sur cette question-là, de savoir, une enseignante posait la question, on entend de plus en plus dire qu'il y a de plus en plus de gamins qui souffrent de troubles de la santé mentale. Et s'adresser à un psy, et lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il dit « Non, il n'y en a pas plus. Il y a qu'on les diagnostique aujourd'hui. Et qu'on met des mots. » Alors, il y a plein de mots. Hein. Et du coup, non, il n'y en a pas plus. Mais on repère chez les... Alors, il dit par contre, ce qu'on remarque, c'est que ces troubles sont plus forts. Et ils sont peut-être rendus plus forts parce qu'il y a une caisse de résonance. Alors, est-ce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est peut-être caisse de résonance ou pas ?
Ça a peut-être en tout cas contribué à briser en effet quelques tabous.
Exactement.
Et à libérer la parole.
Exactement.
Pas que, mais ça contribue au même titre que plein d'autres...
Et sortir les gens d'une espèce de solitude aussi, par ailleurs, qui accentuait la souffrance.
Moi, j'ai la sensation que la santé mentale, on a commencé vraiment à prendre ça au sérieux à partir du moment où on a eu la période Covid. Mmh. Et je crois que les gens, à ce moment-là, se sont dit, on est enfermés. Les étudiants, notamment, on est enfermés, on ne peut pas sortir. Enfin, mais ça, c'était pour tout le monde. Hein. Mais ça a été vachement diagnostiqué chez les étudiants. Enfin, moi, j'ai entendu parler de dépression, j'ai entendu parler de choses assez fortes que je ne pensais pas entendre pour ma génération. Et je pense qu'à partir de là, on a commencé à poser un peu plus les mots, à se dire « ok, d'accord ». Donc en fait, la santé mentale, c'est aussi un enjeu sociétal. Il y a aussi, il y a des choses, quoi. Et il faudrait creuser un petit peu plus parce que, même le mot « dépression », tout ça, il y a différentes formes de dépression. Il y a tout ça. Et je pense que maintenant, on arrive... à avoir une forme de nuance. Et même quand on relit, je pense aussi, on parle de cinéma, mais je pense également à la littérature, je pense à tout ça. Quand on relit certaines choses, on pose des mots un petit peu plus sur ce qu'on essaie de nous dire, ou alors sur... on est un petit peu moins catégorique sur de la façon dont on en parle, voilà.
C'est intéressant ça, parce que la question du confinement a ramené à la question de l'enfermement. Et l'enfermement nous fait forcément penser aux unités de soins pour les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, par exemple.
Et, qui ont été beaucoup représentées au cinéma.
Exactement. Et tout à l'heure, vous parliez de...
Choc Corridor, ou Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'en reparlerai demain.
De Superman.
Mais là, le sensationnalisme, il n'est pas forcément du côté des malades, il est plutôt du côté des soins et puis de l'infirmière qui est une... c'est un film qui est terrifiant. Donc, mais cette question de l'enfermement et du ressenti de l'enfermement, effectivement, a fait ressortir plein de troubles de ce genre. Et on a remarqué aussi qu'il y a plein d'ateliers qui ont été menés d'écriture de scénarios ou de réalisation de films dans les centres pénitentiaires. Et les films qui parlent des troubles de la santé mentale réalisés par ces personnes qui vivent dans des situations d'enfermement sont les films qui sont les plus précis sur la monstration de ce qui peut se passer dans la tête d'un individu. Donc il y a un lien, hein. C'est pour ça que tu parlais de confinement, Camille, mais effectivement il y a un lien, tout ça a fait ressurgir des choses. Est-ce que ça date de là? Je pense que ça avait commencé peut-être un petit peu avant, hein. On a senti venir le coup.
On peut même remonter encore plus loin, parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand on a découvert le phénomène concentrationnaire et les camps, c'est à ce moment-là qu'a émergé le grand mouvement de l'antipsychiatrie, de la psychiatrie institutionnelle, où on a vraiment re-questionné à l'aune de l'image du camp, en fait, à quoi ressemblaient les institutions psychiatriques qui enfermaient les gens. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu, enfin, en tout cas, certains psychiatres à travers l'Europe ont repensé la façon dont l'institution elle-même avait son rôle à jouer.
Il y avait un film qui avait abordé aussi ce sujet de la problématique des soins, mais qui traitait d'affaires qui avaient eu lieu, mais après la Première Guerre mondiale, le fragment d'Antonin, où on voyait un pauvre facteur qui soignait ses pigeons voyageurs et qui avait vu les armées allemandes fusiller tous ses pigeons. Et ça a été un traumatisme pour lui. Et il est revenu de la guerre, mais totalement fragmenté. Mais contrairement à toutes les gueules cassées qui portaient physiquement
les
stigmates de cette guerre, qui étaient marqués physiquement, lui, qui n'avait aucune blessure, était complètement fragmenté de l'intérieur et était devenu complètement, a frisé la folie. Et le regard que portaient les gens, maintenant les gens, ils s'intéressaient aux gueules cassées, mais ceux qui ne parlaient plus après la Première Guerre mondiale par rapport aux horaires qu'ils avaient pu voir, cela, on n'en parlait pas. Et le film traitait de ça et des premiers soins qu'on a pu imaginer pour ces personnes qui étaient fragmentées.
Fragment d'Antonin, donc. Ouais. Je rechercherai plus d'informations.
Ah, il est très, très beau, ce film.
Et Camille, pour revenir au festival Le cinéma pour tous de la Nouvelle Dimension, donc vous avez choisi de projeter deux films de fiction, parce que là, on parle essentiellement des films de fiction, hein, pas du documentaire. Donc c'est le livre des solutions de Michel Gondry, on l'a évoqué tout à l'heure, et La vie de ma mère de Julien Carpentier. Alors ce sont deux films qui sont aussi assez positifs, en tout cas qui portent un regard bienveillant, très bienveillant sur la santé mentale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux films-là?
Bonne question. Michel Gondry, parce que Michel Gondry. Je pense que le livre des solutions est attaché au territoire aussi.
Que ça se passe dans les Cévennes.
C'est ça, dans les Cévennes, exactement. Mmh. Et c'est un film que pas mal de gens ont vu quand il est sorti. Et puis il y a quelque chose d'assez intéressant en fait, parce qu'on parlait de folie, on parlait donc d'art. Michel Gondry a tendance à utiliser la stop motion, les choses comme ça. Et donc c'est comment aussi la santé mentale se manifeste dans l'art, et comment l'art parle de santé mentale aussi. Là, je vous ai écouté et c'est vrai que je pensais à plein de choses. On parlait de clichés, de plein de choses comme ça. Les artistes un peu maudits. Moi, je pensais à des biopics de peintres, par exemple.
Van Gogh,
exactement. Je pensais à tout ça. Évidemment.
La folie et la peinture, ça pourrait être le sujet d'une autre émission.
Mais oui, la littérature absolument. Aussi.
La littérature.
Rimbaud, il avait
On a Maupassant, on a tout ça. Donc, c'est très parlant. Et ensuite, La vie de ma mère, parce que c'est un film qui n'a pas été. Que la Jeunette Verne n'avait jamais projeté. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être le moment de le faire. Il est sorti il y a un petit moment, je crois que c'était l'an passé, il me semble. Ça traite vraiment d'une relation entre une mère et son fils. Et y a cet aspect familial qu'on retrouve pas forcément chez Gondry, et que là, on le retrouve quand même un petit peu avec
Denise. Protège
Denise,
beaucoup,
bien sûr. Mais là, c'est un autre angle. Voilà, c'est une mère et son fils.
Et du coup, ça pose aussi la question, elle a des proches, des personnes qui sont concernées.
Exactement.
Parce que leurs proches sont eux-mêmes...
C'est ça. Parce qu'en fait, les personnes qui sont atteintes de ces pathologies-là en souffrent, mais il y a aussi l'entourage autour. Et pour avoir vu La vie de ma mère, je peux vous dire que c'est un film à aller voir. Il est très touchant, et en même temps ça fait du bien aussi d'avoir des films comme ça. Bon, oui, on retourne dans le cliché où finalement ça se termine un petit peu bien, enfin il y a un truc, tu vois, un petit peu
mais c'est très positif,
un petit peu positif, mais ça fait du bien en fait, parce que ça montre aussi qu'il y a des gens qui sont, enfin ils sont entourés, voilà. Donc
le cinéma soigne.
C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais c'est
le cinéma peut soigner, c'est pas forcément sa prérogative, mais en tout cas, il y a des films qui, en effet, font du bien, et je pense que oui, ces deux films-là que vous proposez en font partie. Pour clôturer cette émission, on a parlé donc du passé, le cinéma, comment il représentait la santé mentale par le passé. On a un peu fait le point sur aujourd'hui. Et dans le futur, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que ça pourrait évoluer? À quoi s'attendre à l'avenir? Quelle prochaine étape pour mettre à l'image, s'emparer cette question de la santé mentale? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau?
Je ne suis pas prophète.
non,
je ne suis pas prophète. Ce que je me rends compte, c'est qu'à l'aune de ce qu'on voit là, et on peut se dire qu'on va peut-être aller vers le mieux, quoique, des fois j'en doute aussi, parce que ça peut faire peur aussi. Je me rappelle que dans les camps de concentration, on avait mis toutes les personnes qui avaient des problèmes d'ordre mentaux. Hein, et donc, on n'est jamais à l'abri de. Enfin, on a le sentiment qu'on n'est pas à l'abri de voir ce type de choses malheureusement se reproduire, quoi. Mais. Censurer les images, tout ça. Bon, moi, je crois beaucoup, néanmoins, en cette capacité que le cinéma a de montrer. Alors, parce qu'on a oublié complètement la forme documentaire, là, c'était peut-être volontaire, mais je veux juste signaler que Nicolas Philibert a fait des films extraordinaires sur cette thématique, La moindre des choses. D'ailleurs, il est allé sur un centre qui se trouve en Lozère, je crois, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est le centre
Saint-Alban.
À Saint-Alban,
oui.
Voilà, à Saint-Alban, voilà, c'est ça, merci.
C'est le centre fondé par François Tosquelles, dont on entend la voix dans le générique de cette émission.
Voilà, il est très intéressé par la façon dont on s'occupait justement des gens, la façon dont on travaillait l'inclusion, voilà, et c'est vraiment... Donc il y a la moindre des choses, et puis il en a fait un autre plus récemment sur la Damante. Oui. Donc il y a des regards documentaires aussi là-dessus. Est-ce que c'est peut-être ça qui va prévaloir maintenant aussi, plus que la fantaisie de la fiction ? Même si elle peut être réparatrice, quelque part, par moment. C'est ça qui me touche aussi. Hein. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Il y a des films, c'est des films doudou dont on a besoin, parce que ça nous câline, ça nous cajole, ça nous donne le monde à voir, n'est pas tel qu'il est, mais tel qu'on aimerait pouvoir le voir ou le construire. C'est positif. Et puis, il y a des films qui s'accrochent plus à la réalité et qui nous font redescendre sur Terre et nous responsabilisent, nous obligent. Quoi.
Moi, je pense que le cinéma éduque. Et donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas tout ça. Et donc, il y a des gens qui travaillent vraiment là-dessus, hein, qui font des recherches et tout. Et je pense que le cinéma, c'est ce qui permet de parler à ce moment-là aux gens, quoi. C'est populaire et donc je pense que c'est par ce biais-là qu'on arrivera aussi à connaître un petit peu mieux voilà, ces pathologies. Et puis, en fait... Je me dis, on est à l'abri de rien du tout, hein, tous et toutes. Hein, voilà, enfin, du jour au lendemain, on peut très bien être dans nos up et après être down. Enfin, et donc voilà. Je pense que voilà, la bienveillance à ce niveau-là, c'est hyper important. Voilà, moi, je connais des personnes qui sont passées par des phases très compliquées, et je pense que la meilleure des choses, c'est d'être là, et puis voilà, le cinéma peut aussi un petit peu aider à réparer.
Et je crois beaucoup aussi au fait que la projection collective d'un film, ça fait du bien aussi.
Oui, parce que le cinéma, c'est une expérience collective. On est tous collés les uns aux autres dans une salle.
Une dimension sociale. Hein. Mais l'idée, c'est, voilà, on voit tous le même film, on ne se racontera pas la même histoire, parce qu'elle résonnera différemment en nous. Et c'est cette construction collective qui fait qu'on va pouvoir peut-être avancer l'un vers l'autre.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette première de cette nouvelle émission À la folie, pas du tout. Le prochain rendez-vous, ce sera le samedi 13 décembre avec la diffusion du premier épisode de la série Chez Georges. Bonne journée à l'écoute de Radio Bartas sur le 107FM et sur radiobartas.net.
Merci.
Merci.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
A partir de l'accent i de la música, de seguir dir, li toca de la parola. Llavors, doncs, j'ai rempli, vam per dir, mon ventre. I llavors, de tant en tant, j'ai dit, si ja li sortís sàment, no? Amb petit interpretació.
A la folie, pas du tout sur Radio Bartas.